Vous écoutez
RMC.
Bienvenue et bon réveil. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Thibaut Texer.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Près de 1900 hectares partis en fumée. Les flammes avancent à une vitesse vertigineuse en forêt de Fontainebleau, où 600 pompiers appuyés par d'importants moyens aériens tentent de lutter contre le feu. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le 14 juillet de Paris à Nice pour Emmanuel Macron, qui va passer en revue les armées ce matin aux Champs-Élysées avant une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la promenade des Anglais il y a 10 ans. Et Dallas, patrie du dollar, du pétrole et désormais temple du football. C'est là que les Bleus vont disputer ce soir leur demi-finale de Coupe du Monde face à l'Espagne.
Les rotations aériennes vont reprendre ce matin au-dessus de la forêt de Fontainebleau.
Le poumon vert de Paris, dévoré par les flammes en plusieurs points distincts, près de 1900 hectares de forêt ont brûlé, je vous le disais, depuis dimanche. 600 pompiers sont à pied d'œuvre, 150 engins seront encore mobilisés. Aujourd'hui, on va retrouver Rachel Sadodine sur place en direct ce matin du côté d'Achères-la-Forêt. Rachel, le feu n'est toujours pas fixé ce matin, pire, il continue de s'étendre et de gagner en intensité.
Oui, le ciel, en principe bleu, est rendu gris par les nuages de fumée qui s'élèvent encore de la forêt. Il y a quelques minutes seulement, les premiers hélicoptères ont commencé à survoler la zone. Plusieurs dizaines de personnes évacuées ont trouvé refuge ici, à la salle des fêtes d'Achères-la-Forêt. Mais à seulement 5 minutes de voiture, les pompiers luttent encore activement contre le feu. En traversant la forêt, j'ai vu des flammes dévorer des troncs d'arbres déjà quasiment calcinés, des plots en plastique fondu, l'air est âcre. Et ici, tout le monde attendait donc avec l'impatience l'arrivée de ces moyens aériens qui pourraient être déterminants. Hier, 4 Canadair, 2 avions et 3 hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés. Mais le vent qui souffle aujourd'hui ne facilite pas la tâche des pompiers.
Et ce feu, Rachel, pourrait avoir une origine volontaire puisqu'on a appris que 2 personnes avaient été interpellées.
Et parmi eux, un jeune homme de 18 ans, inconnu des services de police. Il a été interpellé avec un briquet sur lui, les mains recouvertes de suie. Une nouvelle choquante pour les habitants évacués comme Olivier, 67 ans. Cela fait 2 nuits qu'il dort dans la salle des fêtes d'Achères-la-Forêt.
Il est absolument évident qu'il y a des gens qui foutent le feu. Il y a des pyromanes qui ont été à l'action. C'est une forme de folie ou quoi? Je comprends pas. On est un peu désemparé, dépité, on n'a jamais vu quelque chose de cet ordre. Et bien évidemment, c'est terriblement triste pour tout le monde. On est tous des amoureux de notre forêt, on adore notre environnement.
Olivier ne sait pas dans quel état sa maison se trouve à l'heure actuelle. En évacuant dimanche soir, il observait plusieurs départs de feu autour de chez lui. Une dizaine de points ont été recensés par les autorités dans un périmètre de 1000 mètres. C'est d'ailleurs ce qui les pousse à suspecter ce caractère volontaire de cet incendie.
Rachel Sadodine en direct d'Achères-la-Forêt ce matin pour RMC. Au total, 59 personnes ont été interpellées à l'échelle du pays depuis le début de la saison. 7 ont été placées en détention provisoire, dit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Des incendies qui ont provoqué de nouvelles perturbations hier sur la ligne TGV Paris-Lyon. En raison de plusieurs feux dans l'Yonne, désormais fixé, le trafic ferroviaire a pu reprendre dans les Côtes d'Armor, cette fois en Bretagne. 35 hectares ont brûlé en raison d'un feu désormais fixé au Cap Fréhel. Plus d'une centaine de personnes ont été évacués. Parmi ces personnes, il y a Marie-Lou, vacancière dans un camping marqué par l'ampleur de cet incendie.
Au début, on n'était pas très alarmés parce que le feu, il était à 3 km du camping. Et puis en fait, on nous a vraiment prévenu que le feu était beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Au micro, ils ont appelé, faut évacuer. Là, le stress, il a un peu commencé à monter. On voyait le feu, c'était impressionnant. Puis toute la fumée, la braise qu'il y avait, on s'attendait pas à ça, surtout pas ici en Bretagne. Normalement, les feux, c'est plus dans le sud de la France. On s'attendait pas à ce que ce soit ici et d'une telle ampleur. Donc, c'était éprouvant, stressant, faut le vivre.
Et ce matin, 30 départements restent en vigilance élevée au feu de forêt. 26 sont en vigilance canicule avant un retour à la normale annoncé pour jeudi.
Et on fait un point en direct dans un instant sur la situation de ces incendies avec le porte-parole de la Fédération française des sapeurs-pompiers de France, commandant Éric Brocardi, en direct avec nous dans un instant. 7h05 sur RMC, 14 juillet 2026. C'est le dernier d'Emmanuel Macron dans son costume de président.
6800 soldats descendront les Champs-Élysées ce matin. C'est un record. Parmi eux, 500 militaires, membres de la coalition des volontaires. Le défilé met à l'honneur la mobilisation européenne à la demande d'Emmanuel Macron. Et pour y assister, il vous faudra un QR code, dispositif un temps annulé par la justice et finalement rétabli dans la nuit par le Conseil d'État. Le chef de l'État prendra ensuite la direction de Nice en fin d'après-midi pour une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 14 juillet 2016. Ce soir-là, des milliers de Niçois célèbrent la fête nationale sur la promenade des Anglais avant qu'un camion bélier ne vienne percuter la foule. 86 personnes ont perdu la vie, 400 autres ont été blessées. Une attaque terroriste gravée dans les mémoires, celle notamment du pompier Frédéric Dalpon, rencontré par Inès Zegloul pour RMC. Il se souvient 10 ans plus tard.
Ce soir-là, il n'est pas le lieutenant Dalpon, il n'est pas de service.
C'était sur une plage privée, on voit le premier drapeau vert.
Regard vers les galets, en contrebas, Frédéric se souvient. La nuit s'annonce festive, familiale, il est 22h30.
Et une fois le feu d'artifice terminé, mouvement de foule sur la plage, donc le camion est déjà passé. Devant moi, j'ai 4 victimes, dont 3 enfants. Et je me suis occupé de cette petite fille, hein. C'est la plus jeune victime ce soir-là.
Quel âge ?
2 ans et demi.
L'émotion pudique du pompier de carrière à qui
je tombe sur mon supérieur qui dit voilà, je vais te demander un truc merdique.
On demande l'impensable.
Il faut un chiffre, il faut que tu ailles me compter les morts. Et je l'ai fait. Je m'arrête à chaque corps. Et le dernier que je compte, c'est le chauffeur du camion. Donc il y a des images qui restent imprégnées et qu'on n'oubliera jamais.
Alors, il a eu besoin de rencontrer les familles, leur dire son impuissance, comme une thérapie, dit-il. Besoin de continuer à travailler à quelques pas de la promenade.
La porte est ouverte.
Dans cette même caserne, hantée par les souvenirs.
Cette année, c'est particulier. C'est un chiffre rond, il y a les 10 ans. On sait qu'il y a le président de la République qui va venir pour les commémorations. Je représenterai les pompiers de Nice et c'est important d'y participer. Et on a appris à avancer avec.
10 ans plus tard.
10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, on est toujours là.
Et ce soir, une minute de silence sera respectée en hommage aux victimes avant la demi-finale de l'équipe de France de foot face à l'Espagne.
Des Bleus qui visent une 3e finale de Coupe du Monde consécutive.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on espère un feu d'artifice de but tricolore face à l'Espagne ce soir 21h à Dallas où l'on retrouve Jean-Louis Tour en direct pour RMC. Le match a déjà commencé en coulisses. Chacun y va de son petit mot à ce petit jeu. Didier Deschamps a décidé, Jean-Louis, de mettre la pression sur l'Espagne.
Oui, et c'est la 2e fois que Deschamps est élogieux envers l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Avant le premier match, il parlait déjà des champions d'Europe en titre comme des favoris pour la victoire finale. C'est donc logiquement qu'il a remis la pression sur les épaules espagnoles hier.
L'Espagne a confirmé de ser el favorito.
Voilà, l'Espagne a confirmé qu'ils étaient bien les favoris. Et quelques minutes plus tard, dès la première question de sa conférence de presse, son homologue, l'Espagnol Luis de la Fuente, lui a répondu.
Depuis le début, je vous dis, être favori, ne pas être favori, pour moi, ça n'a pas de sens. L'important, c'est, est-ce que le match est décisif ? Oui, entre deux grandes équipes. Mais dire qu'on est favori, je ne comprends pas.
Deux grandes équipes qui seront emmenées par leur star, Lamine Yamal côté espagnol et Kylian Mbappé côté français. Même s'il a écourté sa séance hier, le coup reçu à la cheville contre le Maroc ne devrait pas l'empêcher d'être titulaire. Deschamps qui devrait par ailleurs enregistrer le retour à 100% d'Aurélien Tchouaméni. Incertitude sur le 4e attaquant entre Désiré Doué et Bradley Barcola.
Jean-Louis Tour qu'on retrouvera au commentaire de ce match ce soir 21h à vivre sur RMC en direct de 20h à 5h du matin. Et puis la route du Tour qui s'élève au lendemain d'un jour de repos pour le peloton attendu au Lioran, 7e et dernière ascension de la journée, 166 km de course à vivre sur RMC. Le massif central, terrain de bataille entre les principaux leaders, à moins qu'un Français ne vienne jouer les troubles fêtes en ce jour de fête nationale.
Thibaut Texer pour le journal sur RMC et RMC Story 7h09. On va partir au 32-16, c'est Bruno qui est avec nous ce matin depuis Nantes. Bonjour Bruno.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue à vous Bruno. Quel est le programme ce soir pour le match pour France-Espagne ?
Alors quel est le programme ? Je serai en poste, donc je serai au travail de 20h30 à 6h15, mais ça n'empêche que je vais regarder le match en direct sur mon téléphone.
Ah, il y a quand même la télé sur le téléphone. Je vois que vous êtes agent de sécurité, hein, c'est ça ?
Ouais, agent de sécurité incendie, ouais.
Bon, vous y croyez à cette finale de Coupe du Monde ?
Sincèrement, ouais, j'y crois. Deux buts, 2-0, un de Mbappé et puis un de Upamecano. J'aimerais bien que lui marque, ça serait sa récompense. C'est un très bon défenseur, donc il apporte du physique, des fois quelques ratés, pour être honnête, hein, quelques ratés, mais du physique et de la technique. Par contre, Mbappé, ça va être chaud, puisque il va se faire recadrer par quelques joueurs. Je pense qu'il va être sous surveillance, 2 ou 3 joueurs dessus, je pense.
Vous n'avez pas peur de cette équipe espagnole qu'on considère depuis le début de cette Coupe du Monde comme la grande favorite ?
Non, ils sont tous favoris. À partir du moment qu'ils ont été en demi-finale, c'est que c'est 4 superbes équipes, même si je suis pas pro-argentin. C'est 4 belles équipes. Que le meilleur gagne, mais je suis pro-français. Donc, on a une belle équipe, belle génération. Bon, certes, c'est pas Platini, c'est pas Zidane, c'est pas des Rostos et autres. C'est d'autres générations, mais je pense qu'elle peut gagner.
Eh ben écoutez, on va y croire avec vous, Bruno. Merci pour votre appel au 32-16. 2-0, hein, a dit Bruno. Tiens, qu'en pensez-vous? On vous attend au 32-16. À 7h40, on sera avec Daniel Riolo et Eric Dimeco. On verra ce que eux en pensent de cette sélection espagnole. Est-ce qu'elles peuvent gripper la machine des Bleus? On en parlera à 7h40 et on vous attend donc au 32-16. Il est 7h11 sur RMC et on va retourner sur le front des incendies. Près de 2000 hectares brûlés depuis dimanche en forêt de Fontainebleau, un incendie à quelques dizaines de kilomètres de Paris, c'est inédit. Bonjour Eric Brocardi.
Bonjour.
Lieutenant-colonel, vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Quelles sont les dernières nouvelles ce matin? Que pouvez-vous nous dire? Est-ce que ces incendies en forêt de Fontainebleau sont toujours hors de contrôle?
Ils sont pas hors de contrôle. Disons que l'ensemble des sapeurs-pompiers aujourd'hui continuent à travailler d'arrache-pied. Il faut être extrêmement vigilant avec les statuts, les qualificatifs que l'on donne sur les incendies, parce que derrière vous avez des hommes et des femmes qui au quotidien sont particulièrement engagés. Et 1900 hectares sont aujourd'hui annoncés sur les deux principaux feux, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est une question encore de lutte et de bataille, surtout le matin, là où le vent est censé être le moins, on va dire le moins virulent pour les sapeurs-pompiers. Voilà, nous n'avons pas beaucoup d'alliés sur le terrain. Nous devons compter sur nos véhicules, nos moyens aériens, évidemment sur toutes celles et ceux qui sont engagés, et puis effectivement sur l'application stricte des consignes données à l'ensemble des concitoyens dès lors qu'ils sont dans le secteur et qu'il y a nécessité ou non de pouvoir évacuer.
Il y a la chaleur qui va continuer aujourd'hui, il y a le vent qui va reprendre aujourd'hui. On attend encore du vent?
On attend malheureusement encore certains vents, un vent qui est particulièrement pénible. Dès le départ, ce vent, il a été complexe à gérer, puisqu'il a fait partir l'ensemble du dispositif sur un secteur gauche, puis qui a créé un secteur droit. Donc, ce sont des conditions qui sont pas forcément évidentes avec, comme vous l'avez dit, à 10 km de Paris, des contraintes pour les vols aériens, des contraintes d'un point de vue infrastructure. Donc, c'est pas du tout les mêmes configurations que ce que l'on peut rencontrer lorsque l'on lutte contre les incendies dans le sud de la France. Où là, vous avez effectivement beaucoup de nombreuses pistes de défense de forêt contre les incendies. La forêt de Fontainebleau n'est pas forcément configurée pour malheureusement être défendue sur le plan des incendies. Ça reste des pistes qui sont praticables d'un point de vue touristique. Donc il y a aussi effectivement ce sujet sur l'ensemble du territoire national, si on dézoome un petit peu, de prendre en considération tous les moyens nécessaires pour qu'à l'avenir l'ensemble des forêts de France puissent être défendues avec justement soit les axes, soit les équipements nécessaires.
On a vu hier ce deuxième foyer s'approcher de la ville de Fontainebleau, pas très loin du château, à quelques kilomètres. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour les zones habitées ce matin?
Nous avons toujours comme stratégie la défense de points sensibles. C'est mettre les sapeurs-pompiers là où il y a une nécessité, de manière à pouvoir en même temps de défendre les points sensibles, essayer de diminuer considérablement le front de feu et en même temps d'essayer d'orienter le feu vers des zones qui soient, on va dire, neutres en termes de moyens sensibles. Donc l'orientation, elle est toujours cette manière-là, c'est sauver des vies, protéger surtout les biens et permettre systématiquement d'engager des moyens nécessaires en fonction de la demande, en fonction des nécessités absolues. Voilà.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, donc pour cet incendie qui donc n'est pas fixé ce matin, et le travail des pompiers qui continue. 800 pompiers qui sont mobilisés ce matin sur le terrain en forêt de Fontainebleau. Merci beaucoup. Il est 8h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et c'est un 14 juillet très particulier à Nice. Aujourd'hui, 10 ans après l'attentat de la promenade des Anglais, 86 personnes tuées, renversées par un homme qui a foncé sur la foule au volant de son camion à la fin du feu d'artifice. Emmanuel Macron présidera les commémorations ce soir. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Stéphane Herbst. Il était sur la promenade des Anglais ce soir-là, ce 14 juillet 2016, avec sa femme et ses deux enfants. Son épouse n'a pas survécu. Et il nous dit ce matin son sentiment d'avoir été parmi les victimes oubliées des attentats. Cet attentat au rabais, dit-il, c'est son parti pris. Il est avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h17 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Apolline Matin continue. Beaucoup de messages ce matin à la fois au 32-16. Sur le WhatsApp RMC aussi, Victor, avant ce choc France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde ce soir.
Et sur le 06-12-424-424, forcément, on est tous supporters des Bleus. On a d'abord Ali qui nous dit, bah alors oui, du côté espagnol, il y a Lamine Yamal, l'étoile filante de cette Coupe du Monde, qui traverse les matchs sans réellement les impacter. C'est ce qui le rassure. Ali qui nous dit que finalement la vraie étoile de ce mondial c'est toujours et encore Kylian Mbappé. On a aussi Moussa qui pronostique son 3-2 pour les Bleus, et puis comme Bruno qu'on a eu il y a quelques instants, d'autres pronostiquent un 2-0 toujours avec un but de Kylian Mbappé. Ça revient beaucoup dans les messages
et vous continuez de nous écrire. Il est 7h17 et on en vient à ces commémorations 10 ans après l'attentat de Nice, chauffeur de camion qui avait foncé sur la foule sur la promenade des Anglais après le feu d'artifice, 86 morts, dont 15 enfants, 400 blessés. Bonjour Stéphane Herbst.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous étiez sur place ce 14 juillet avec vos deux enfants et avec votre épouse Rachel qui n'a pas survécu. Elle avait 39 ans et on pense à elle ce matin. Depuis, vous co-présidez l'association Promenade des Anges. Et votre parti pris ce matin, Stéphane Herbst, c'est de dire que vous avez le sentiment d'avoir été une victime oubliée, le sentiment d'avoir été l'attentat au rabais en comparaison par exemple avec les victimes du 13 novembre à Paris, c'est ça que vous voulez dire?
Ouais, alors c'est pas une victime oubliée parce que je suis une victime parmi les victimes de l'attentat, c'est surtout que les victimes de l'attentat et l'attentat dans sa globalité sont complètement oubliées hein, depuis une dizaine d'années, depuis 8 ans plutôt. La dernière fois qu'on a eu la visite d'un président et d'un officiel entre guillemets, c'était en 2017 avec la venue de Emmanuel Macron, puis l'année suivante avec Éric Dupond-Moretti, puis ensuite il y a eu un réel désintérêt de toutes les commémorations et au-delà des commémorations de tous les combats qu'on porte.
Aujourd'hui, il y aura des commémorations retransmises en direct sur toutes les chaînes avec la présence du président de la République. C'est un pas important?
Oui, c'est un pas important. Moi, je l'avais rencontré le 11 mars lors de la journée nationale et il m'avait garanti qu'il venait pour les commémorations. Je lui avais rappelé aussi que c'était l'attentat, les commémorations de l'attentat 2017, c'est les premières de son mandat et les 10 ans, ce sera les dernières de son mandat. Donc, je pense qu'aussi pour lui, ça revêt une importance assez particulière, une symbolique aussi assez particulière.
Comment allez-vous aujourd'hui, Stéphane? Qu'est-ce qu'il reste 10 ans après?
Ah, c'est la question à poser, comment ça va? Disons que on continue de survivre. On s'est dit les premiers jours après l'attentat, on va essayer de survivre au quotidien, de faire les actions quotidiennes, l'inscription des enfants à l'école, le travail, etc. Et puis on s'aperçoit avec le temps, on met un pied devant l'autre et on continue d'avancer sans trop le vouloir, parce qu'en fait, il y a le quotidien qui prend le dessus. Vous êtes happé par les contraintes quotidiennes. Puis on se retourne au bout de 10 ans, on s'aperçoit qu'on a fait un chemin. C'est pas un chemin qui est parfait, c'est pas le plus beau, mais on se dit, il a le mérite d'exister, puis on a poussé nos enfants, on a fait grandir nos enfants, et je pense que c'est l'essentiel.
Vos enfants qui avaient 7 et 12 ans à l'époque, si je ne fais pas d'erreur, comment est-ce qu'ils ont grandi avec ça?
Sinon, une enfance, c'est aussi une adolescence vraiment particulière. Déjà, c'est une éducation monoparentale, dans un cadre de contexte de deuil, donc c'est jamais facile. Et puis, on vient rajouter en surenchère le contexte de l'attentat avec les atrocités, les horreurs que vous imaginez, dont je parlerai pas forcément, mais voilà. C'est au-delà d'avoir perdu un parent, c'est l'avoir perdu dans un attentat au milieu de dizaines d'autres victimes dans une scène d'atrocité extrême. Donc oui, ça a été très difficile, notamment l'adolescence de ma fille. Aujourd'hui, elle a 22 ans et c'est une jeune fille assez épanouie, je trouve. Elle pourrait avoir beaucoup plus mal tourné, entre guillemets. Mon fils, lui, il a 17 ans et c'est un peu pareil. Moi, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance. Et je pense qu'on a un côté résilient assez fort. Je sais pas, ça vient peut-être du caractère ou de notre façon d'agir depuis l'attentat. L'implication aussi, je pense, dans l'association qui a été assez importante et qui leur a montré aussi ouvert une certaine voie.
Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin, Stéphane Herbes, et pour cette résilience dont vous faites part. Et vous serrez les coudes entre victimes au sein de votre association, puisque vous co-présidez donc cette association qui s'appelle Promenade des Anges, association de victimes. Vous serez ce soir sur la Promenade des Anglais pour les commémorations qui seront présidées par le président de la République. Merci à vous. Il est 7h22 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Sébastien.
Historien d'Apolline Matin. Hier, on a vu ces canadaires, on en parlait tout à l'heure, en forêt de Fontainebleau, aller puiser de l'eau dans la Seine. Des canadaires mobilisés pour la toute première fois en région parisienne. Ces hydravions sont canadiens et pourtant, ils ont une histoire bien française.
Eh oui, le canadair, c'est évidemment un avion canadien, mais l'avion qui se pose sur l'eau, donc l'hydravion, c'est une invention française qui date du début du XXe siècle.
À tout de suite, on se retrouve dans 80 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 sur RMC, sur RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Hier, l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Édouard Philippe, a plaidé pour un canadair souverain.
Mais oui, faire des canadairs français, c'est désormais dans son programme présidentiel. Édouard Philippe s'y est engagé. Une prise de position qui évidemment n'est pas anodine, hein, puisqu'avec le réchauffement climatique, les incendies se multiplient. Du coup, la demande de canadairs explose. Sauf que problème, les délais de livraison sont très longs. Par exemple, la France en a commandé deux. Elle ne les recevra qu'en 2032. Une des explications, c'est que tout le monde se fournit chez le même fabricant, c'est-à-dire l'entreprise canadienne Canadair. Donc, le Canadair souverain est une idée qui fait du sens. D'autant que notre flotte est à la fois insuffisante et vieillissante.
Et pourtant, l'hydravion, à l'origine, c'est bien une invention française.
Et oui, c'est une invention française qu'on doit à un Marseillais qui s'appelait Henri Fabre. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est la naissance de l'aviation. Et depuis qu'il était petit, ce Henri Fabre était passionné d'avions, de moteurs et de voiles. Donc dès qu'il obtient son diplôme d'ingénieur, eh bien il se met à travailler sur un projet complètement fou pour l'époque, un avion qui décolle et qui atterrit sur l'eau.
Et en 1910, le miracle se produit.
Et oui, après 4 ans de travail acharné, beaucoup d'échecs, tout est finalement prêt. L'avion d'Henri Fabre, on l'appelle le canard à cause de la forme qu'il avait. Le 28 mars 1910, l'engin décolle depuis les temps de Berre, hein, c'est une lagune à côté de Marseille. Il parvient à voler pendant un peu moins d'un kilomètre, à atterrir sur l'eau. Bref, mission accomplie et l'hydravion est né.
Et ces avions d'un nouveau genre, ils vont d'abord avoir une fonction militaire.
Exactement, puisqu'en fait, on va beaucoup s'en servir pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Là où ils avaient un vrai plus, ces avions, eh bien, c'était pour les missions de surveillance au-delà des côtes, hein, puisqu'évidemment, cet appareil avait l'avantage de pouvoir se poser facilement. Et oui, sur l'eau, vous n'avez pas besoin de piste d'atterrissage. Petit à petit, on transforme les hydravions en avions de combat avec des mitrailleuses. Mais on s'en servait aussi pour des vols commerciaux avec des passagers, des vols de ligne, si vous préférez.
Et quand est-ce qu'on se met à les utiliser contre les incendies?
Alors en fait, c'est assez tard, puisque ça arrive après la Deuxième Guerre mondiale. On reconvertit des hydravions militaires américains en bombardiers à eau, notamment pour lutter eh bien, contre les feux de forêt. Mais le tout premier hydravion spécifiquement conçu pour la lutte anti-incendie, c'était donc une création de l'entreprise canadienne Canadair, hein, celle qui nous fournit encore aujourd'hui. Cet avion, c'était le CL-215. Son premier vol a lieu en 1967. Et c'est d'ailleurs cette même année qu'il arrive en France. Alors pourquoi est-ce que le Canadair a eu autant de succès? Eh bien parce que sa particularité, c'est qu'il n'a pas besoin de se poser approvisionner en eau. Pardon. Il lui suffit d'effleurer la surface, ce qui évidemment est un gain d'efficacité et de rapidité.
Ouais, et on salue les pilotes qui sont incroyables quand on voit les images de ces Canadairs qui se posent sur la Seine. Passionnante histoire des hydravions ce matin. Merci Arthur Chevalier, chronique à réécouter bien sûr en podcast sur l'appli RMC. 7h27, dans un instant la météo et le journal de 7h30, et puis France-Espagne, c'est donc ce soir demi-finale exceptionnelle entre les deux favoris du mondial. Alors quels atouts des deux côtés? L'Espagne peut-elle barrer la route des Bleus vers la finale? Éric Dimeco, Daniel Riolo avec nous juste après le journal de 7h30. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal tout de suite avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dernier défilé du 14 juillet pour Emmanuel Macron. Une démonstration de force cette année sur les Champs-Élysées. L'incendie en forêt de Fontainebleau progresse. Plus de 1900 hectares brûlés depuis dimanche. Et la solidarité s'organise pour accompagner les pompiers qui luttent contre ce feu. Et c'est à vivre ce soir sur RMC. France-Espagne, demi-finale du Mondial. Un match particulier pour l'attaquant madrilène Kylian Mbappé.
C'est donc un 14 juillet hors norme qui se prépare sur les Champs-Élysées.
Le dernier défilé militaire présidé par Emmanuel Macron doit débuter à 10h et l'Ukraine sera à l'honneur avec un message clair, l'afficher, le réveil européen en présence d'une trentaine de chefs d'État. Et Sonia Gobry du service politique des RMC, vous êtes en direct ce matin des Champs-Élysées. Et avant le coup d'envoi de ce défilé, un imbroglio autour du QR code d'accès anime la matinée. Supprimé hier et rétabli cette nuit par le Conseil d'État.
Ce que vous le disiez.
Sonia Gobry, on a un petit souci technique avec Sonia Gobry, on la retrouvera dans quelques instants. Emmanuel Macron sera également attendu à Nice en fin d'après-midi pour les commémorations des 10 ans de l'attentat. Attentat sur la promenade des Anglais qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Une cérémonie est prévue à 18h.
Et on va retourner sur les Champs-Élysées tout à l'heure après le journal de 8h. Retrouver Apolline de Malherbe qui reçoit pour le face-à-face tout à l'heure depuis les Champs-Élysées la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Ce sera à 8h30.
RMC, 7h32. La forêt de Fontainebleau brûle toujours. Cela fait plus de 24 heures que les pompiers luttent contre ce feu d'origine volontaire. Feu qui progresse, a déjà parcouru plus de 1900 hectares. De nombreux moyens ont été déployés, canadaires, hélicoptères, bombardiers d'eau. Et Marion Gauthier, vous vous êtes rendu sur place. Un élan de solidarité se met en place pour venir en aide aux 600 pompiers mobilisés.
Ils remplissent la citerne.
On est reparti.
Et se rapprochent de l'incendie.
Ça permet aux pompiers d'éviter d'aller ravitailler. Ils sortent de la forêt, on les ravitaille en eau et ils repartent tout de suite au front.
Jérôme habite le Vaudouet, un village sinistré.
J'ai été évacué dimanche et du coup, je me suis dit, voilà, au lieu de rester à rien faire, autant venir aider.
Avec Vincent au volant, l'agriculteur s'inquiète des dernières nouvelles des pompiers.
C'est compliqué là parce que partout où ils passent, ils ont l'impression que ça redémarre derrière. Le feu est tellement intense, le problème c'est qu'ici c'est de la tourbe, donc ça continue à se consumer à l'intérieur du sol en fait.
Arrivé au milieu d'autres tracteurs, des camions rouges défilent dans la fumée et le bruit des pompes à eau. Christophe, un technicien agricole, est ici depuis dimanche.
On a préféré arrêter la moisson pour pouvoir sauver la forêt. On travaille tous les jours dans la nature. Le plus dur, c'est de le voir partir en fumée. Donc, on n'est pas fatigué et on sera là toute la semaine.
Il y a des gâteaux, des chips.
Trois jeunes des villages alentours apportent alors des pique-niques.
Il y a un autre groupe qui va passer pour les pompiers. On s'est divisé les tâches à la mairie. C'est la mairie qui nous a envoyés.
Des sacs déposés sur le trottoir où des riverains désœuvrés craignent que les flammes grignotent leur forêt.
59 interpellations partout en France, dont 2 pour ce feu de forêt de Fontainebleau, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nunes. 7 d'entre eux sont en détention provisoire.
Et on sera à Fontainebleau dans un instant pour un coup de fil à l'ancien maire et aujourd'hui député de Fontainebleau, Frédéric Valtou.
Et de nombreuses perturbations hier en gare de Lyon, jusqu'à 4 heures de retard. Conséquence des incendies aux abords de la ligne TGV Sud-Est, notamment dans Lyon. Le trafic a repris normalement ce matin. Les États-Unis continuent de frapper l'Iran, 3e nuit de suite. Donald Trump a également évoqué le rétablissement de leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le détroit d'Ormuz, et tout en estimant qu'un accord avec Téhéran est toujours possible.
Il est 7h34 sur RMC et RMC Story. C'est l'affiche qu'on attendait. Et c'est ce soir Kylian Mbappé face à son pays d'adoption, l'Espagne.
Le capitaine.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le capitaine des Bleus qui évolue sous les couleurs du Real Madrid depuis 2 ans rêve d'éliminer ce soir l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde à Dallas. Mbappé, qui brille lors de ce mondial, crispe les supporters madrilènes. Edgar Grollo.
Oui, pour les Espagnols, le Kylian Mbappé de la Coupe du Monde n'est pas celui qu'ils connaissent.
Il me fait peur, je le trouve très fort dans cette Coupe du Monde.
Il est beaucoup plus impliqué et investi avec sa sélection. En club, on veut qu'il donne tout sur le terrain. Il le fait avec la France, mais jamais de la vie avec le Real.
Les prestations du capitaine des Bleus ont de quoi énerver certains supporters madrilènes.
Ça me frustre parce qu'on ne va rien gagner si les joueurs ne se concentrent que sur leur sélection. À Madrid, Mbappé, ce n'est pas un exemple pour l'équipe, alors qu'en France, tout le monde s'appuie sur lui.
C'est très mal Mbappé.
Un écart de niveau expliqué par son rôle dans chaque équipe, selon Miguel Angel Toribio, journaliste pour Radio Marca.
La différence, c'est que plus tu lui donnes du pouvoir sur le terrain et du leadership, plus il est fort. En plus, il a une idylle avec la Coupe du Monde. On est en train de voir un Mbappé quasiment inarrêtable.
Kylian Mbappé a déjà marqué 8 buts dans ce mondial. C'est autant que sur ses 4 derniers mois de compétition avec le Real Madrid.
France-Espagne, c'est à 21h, c'est bien sûr à suivre sur RMC. Ne ratez pas également l'avant-match dès 18h, Rotten sans flamme en direct de la brasserie Le Flora. Paris.
Et je salue Daniel Riolo qui est déjà installé en studio. On sera aussi avec Eric Dimeco dans un instant pour évoquer cette affiche 21h France-Espagne ce soir sur RMC.
Et après une journée de repos, le peloton s'attaque à la montagne aujourd'hui. 10e étape, étape longue de 161 km. Un parcours qui pourrait livrer une nouvelle bataille entre le maillot jaune Pogacar et son rival Vingegaard. À Intégral Tour, c'est à 14h sur RMC.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp aujourd'hui à 18h30.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 4 Gérard Terbock, et son outsider est le 2 Caramelito.
Clément Guitz pour le journal en direct sur RMC. Il est 7h36 et on part à Fontainebleau. Bonjour Frédéric Valtou.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien maire de la ville, vous êtes aujourd'hui député de Seine-et-Marne, député Horizon. Est-ce que vous avez des nouvelles ce matin, des pompiers? Quelle est la situation sur place?
Alors, la situation n'a pas tellement bougé, puisque la nuit, les interventions, notamment de Canadair, tous les moyens aéroportés sont à l'arrêt. Et donc il y a une stabilisation de la situation, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Puisque là, dans les minutes qui viennent, les Canadaires vont pouvoir reprendre leur travail. C'est quand même ce qui est le plus efficace pour éteindre les feux. Et donc, j'ai eu les pompiers il y a quelques minutes. Ils espèrent. Ils l'espéraient déjà hier matin, mais ils espèrent pouvoir arriver à fixer au moins les feux aujourd'hui, c'est-à-dire à les contenir dans leur périmètre, ce qui est déjà le début d'une résolution du sujet.
On comprend donc qu'ils ne sont pas encore fixés. Il y a notamment ce brasier visible depuis le château de Fontainebleau à quelques kilomètres. Il y a une inquiétude ce matin pour la ville de Fontainebleau?
Non, il n'y a pas d'inquiétude pour la ville de Fontainebleau. C'est spectaculaire parce qu'effectivement, on a vu hier cette colonne de fumée s'élever très haut dans le ciel, très dense comme fumée, qui effectivement, vu de la ville, donc vu du château aussi, pouvait donner l'impression qu'on était proche alors qu'on était à 1,5 km, 2 km, ce qui en soi n'est pas très loin, mais on n'est pas dans l'immédiat voisinage. Et les vents ont de toute façon plutôt poussé ce deuxième foyer d'incendie qui est apparu hier, hein, proche de la ville de Fontainebleau, ont poussé à l'opposé de la ville les flammes. Donc, et c'est un feu plus petit, si on peut dire ça comme ça, 100 hectares seulement, ce qui est déjà énorme pour la ville de Fontainebleau, mais par rapport aux 1500 hectares du feu qui a démarré il y a 48 heures, est un foyer plus circonscrit.
On s'approche des 2000 hectares brûlés hein, dans cette forêt de Fontainebleau. C'est une ampleur qu'on n'a pas connue dans la moitié nord de la France depuis 20 ans. Vous, comme maire de Fontainebleau, puis comme député, c'est une situation que vous aviez imaginée? Est-ce que c'est un scénario auquel les autorités locales étaient préparées?
Alors, oui et non. On avait imaginé qu'effectivement, la répétition des feux allait nous tomber dessus avec les changements climatiques, avec les épisodes de canicule à répétition. Et quelque part, on s'y était préparé. Puisque, par exemple, les plans de vol pour les Canadairs avaient été préparés il y a déjà 3-4 ans. Et depuis 3-4 ans, on sait que si un jour, ce qui n'était jamais arrivé en Île-de-France, si un jour un Canadair devait arriver, il savait exactement où est-ce qu'il fallait qu'il aille écoper de l'eau sur la Seine, à quel endroit la Seine était suffisamment droite, suffisamment longue pour pouvoir exercer, enfin je veux dire venir chercher de l'eau. Donc quelque part sur le plan réglementaire, on était prêt. Néanmoins, là, on n'était pas prêt à un scénario noir comme celui-là, c'est-à-dire des départs de feu multiples, des foyers nombreux qui font converger des incendies qui, par leur surface, prennent une ampleur tout à fait inédite sur un épisode de sécheresse qu'on connaît, de canicule très très fort. Et là, la forêt malheureusement s'embrase. Moi, en 20 ans comme maire, j'avais jamais connu de feux de cette ampleur. Les plus importants faisaient 4, 5, 6... Allez, je crois qu'une fois, on est monté à 10 hectares. Là, comme vous le rappeliez, on va arriver sans doute entre 1700, 1800 hectares, peut-être, qui vont partir en fumée.
Et des incendies d'autant plus choquants qu'on parle de potentiels incendies criminels volontaires avec deux personnes qui ont été interpellées, nous dit le ministre de l'Intérieur, pour une enquête qui est encore en cours et dont on n'a pas les conclusions. Merci Frédéric Valtou d'avoir été en direct avec nous ce matin, ancien maire de Fontainebleau, député de Seine-et-Marne. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dallas, ton univers impitoyable. Les Bleus sont au Texas pour une place en finale France-Espagne. C'est ce soir à 21h. Vous la suivrez cette demi-finale sur RMC. Et on en parle ce matin avec Eric Dimeco, notre fil rouge de la Coupe du Monde. Bonjour Eric.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous, salut.
Et avec Daniel Riolo, bonjour Daniel, qui bonjour. Est avec nous ici en studio. On vous écoute tous les soirs dans l'after et on suit avec vous deux cette Coupe du Monde. Ça devient sérieux, c'est une affiche de finale peut-être ce soir. France-Espagne, deux prétendants au Mondial. Alors est-ce que la machine des Bleus peut se gripper? Quel est votre favori pour ce match? On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h43, on est ravis de vous accompagner en ce 14 juillet, jour de demi-finale de Coupe du Monde.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Espagne, c'est à 21h, c'est à Dallas, demi-finale donc de la Coupe du Monde. On est ce matin avec Eric Dimeco, consultant RMC, et avec Daniel Riolo, journaliste RMC Sport. Rebonjour à tous les deux. C'est le match qu'on attendait, peut-être l'affiche de rêve entre les deux favoris de ce mondial. Eric, c'est une affiche de finale ce soir ?
Oh oui, on présente tout ce match-là comme une finale avant l'heure, mais oui, cette demi-finale était attendue. Tout à l'heure, tu disais, Sébastien, les choses sérieuses commencent, mais elles ont commencé depuis un moment, hein, même si l'équipe de France s'est facilité le parcours. C'était sérieux jusqu'à maintenant, et les Français nous ont fait plaisir et ont bien fait le boulot. Mais là, ce soir, c'est vrai qu'on n'a pas rencontré d'équipe comme l'Espagne encore depuis le début de la compétition.
C'était déjà sérieux, mais ça paraissait facile, Daniel, jusque-là. Ce soir, ça risque d'être plus compliqué?
C'est un mélange des deux jusque-là, parce qu'effectivement, les adversaires, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu grand monde face aux Bleus. C'est également vrai de dire que la supériorité de l'équipe de France a été nette et que oui, ils se sont rendus le chemin facile, mais on a eu personne du niveau de l'Espagne face à nous depuis le début. C'est pour ça qu'il y a cet inconnu. C'est pour ça qu'il y a ce suspense. Il aura fallu attendre jusqu'à la demi-finale pour avoir un gros adversaire. C'est la nouvelle formule de la Coupe du Monde qui a fait que les tableaux se soient constitués de cette façon. Et là, on quitte la côte Est. Là, on a joué tous les matchs. On va à Dallas, vous l'avez dit dans la présentation. On a l'Espagne face à nous, équipe qui est là également pour gagner la Coupe du Monde. Il y a une forme d'inconnu dans ce que les Bleus peuvent rendre comme performance. Tout le monde les voit très fort. Tout le monde dit que c'est probablement l'une des équipes les plus fortes de ce mondial. On s'attendait peut-être pas de l'autre côté à ce que les Anglais soient aussi forts. Mais là, de ce côté du tableau, tout semblait écrit dès le départ. Ce France-Espagne, on y aurait droit. C'était écrit dans la demi-finale. Bon, voilà, on y est maintenant. Et moi, je trouve que il y a un vrai gros suspense autour de ce match. Personne n'arrive réellement à savoir quel genre de scénario ce match pourra avoir, parce que les Bleus ont beaucoup changé. Maintenant, on est devenu une équipe offensive.
Avec alors la meilleure que, attaque, meilleure attaque que, de cette Coupe exactement. Du Monde face à la meilleure défense.
Alors que c'était pas du tout notre habitude. Donc là aussi, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi que cette demi-finale est passionnante. Ouais. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va voir.
Et donc face à la meilleure défense qui est l'Espagne dans cette Coupe du Monde, Eric, est-ce que l'Espagne peut gripper la machine des Bleus et ce trio offensif très performant depuis le début ?
Ah oui, ils ont. On sait qu'ils aiment avoir le ballon. Alors même si nous, on est à l'aise contre ces équipes-là normalement, c'est-à-dire des équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment se projeter vers l'avant, des latéraux très offensifs. Donc nous, on a en attaque des garçons qui vont très vite dans les transitions. Donc on présente tout ce match-là comme un match peut-être qui nous conviendrait mieux. Sauf que techniquement, c'est fort en face. On le sait, ils aiment avoir le ballon. On peut passer de longues minutes sans toucher le ballon. Et alors après, La solidité défensive espagnole, j'ai un doute. Je suis pas aussi sûr que ça. C'est peut-être les adversaires qu'ils ont rencontrés jusque-là qui leur a permis cette perte.
Ils en ont rencontré des beaucoup plus forts que nous.
Hein. Ils ont encaissé un seul
peut-être,
but.
Peut-être, ouais. Non, mais j'ai un doute. On le verra ce soir. Hein. Et offensivement, je les trouve un petit peu moins forts que les deux dernières fois quand on les a rencontrés. Et c'était deux défaites. Et là, ils étaient vraiment supérieurs à nous. Lamine Yamal n'est pas encore à son plus haut niveau. Et Nico Williams n'a pratiquement pas été sur le terrain pendant cette compétition. Donc moi, je suis très, très confiant et je serais très déçu si l'équipe de France n'allait pas en finale.
Ah ben, on serait tous évidemment très déçus. Je suis sûr que Saïd, qui est avec nous au 32-16, serait aussi très déçu si les Bleus n'allaient pas en finale ce soir. Bonjour Saïd.
Ouais, salut à toute l'équipe de RMC. Et comme je vous ai dit un peu en début là, je disais, moi je vois bien sûr l'Espagne, c'est son jeu de garder le ballon, la possession, ils ont un milieu extraordinaire. Mais je pense que devant on va très très vite et c'est dans la transition justement les contres on peut leur faire très très mal. Et moi je vois bien un 3-1 ou un 3-2. Allez, un match assez ouvert quand même.
Daniel, d'accord avec Saïd ?
Alors vous savez qu'en Espagne, ces derniers jours, moi j'avais remarqué que les joueurs parlaient beaucoup et se montraient extrêmement confiants. Je constate ce matin que nos joueurs ne parlent pas, eux sont très discrets, mais alors les supporters et les consultants sont extrêmement confiants. On a l'impression que c'est joué déjà, avec les Bleus, elles vont battre l'Espagne. Très honnêtement, je vois un léger avantage pour les Bleus, mais honnêtement, c'est un match qui...
Mais Daniel...
Oui.
Le fait que les Espagnols parlent beaucoup, ça, et que nous non, ça dénote pas, peut-être, j'ai pas l'habitude de,
connais pas la psychologie des Espagnols en sport. Ils ont l'habitude d'afficher beaucoup de confiance, qui, vu de l'extérieur, peut ressembler à de l'arrogance.
Ah non, mais moi je parle pas d'arrogance, je parle peut-être de peur,
Est-ce que le fait de parler beaucoup, en fait, cache une sorte de crainte?
Je sais pas.
C'est possible. Ce dont ils sont sûrs, en tout cas, c'est que, puisqu'on a beaucoup parlé des deux derniers affrontements, à la finale, la demi-finale de l'Euro 2024 et le match de Ligue des Nations l'année dernière, c'est que eux savent que nous on a changé et que notre attaque est plus performante et que maintenant nous ne sommes plus une équipe qui attend recroquevillée derrière sans style de jeu. Désormais nous aussi nous avons un style, nous aussi nous sommes offensifs et nous aussi nous jouons haut en faisant du pressing. Ça, eux, ils se disent, ah oui, ils ont vraiment changé les Bleus. Et ça peut instiller chez eux une forme de doute, ça c'est certain.
Donc match animé avec du spectacle et des buts, on peut espérer une rencontre de ce type-là.
Ça, on peut vous le promettre, ça nous coûte pas très cher de faire la promesse.
Hein. Ouais, mais si à la fin il y a 0-0 et prolongation, ce sera pas la même.
Les promesses.
Sauf que contre le Portugal, Espagne-Portugal, on promettait des buts et du jeu. Et bon, ça n'a pas été le match de la Coupe du Monde non plus, donc attention, il faut se méfier.
Merci à tous les deux. Le coup d'envoi est à 21h du côté de Dallas. Ce sera évidemment à suivre sur RMC Radio officielle de cette Coupe du Monde France-Espagne. RMC en direct des États-Unis ce soir de 20h jusqu'à 5h du matin. Toute la nuit, vous ne manquerez rien du match et de l'après-match avec l'after en direct de New York autour de Gilbert Bribois. Merci à tous les deux. Il est 7h50 et dans un instant, la voix de gauche d'RMC, c'est vous, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Ancienne ministre des patronne d'Oxfam ce matin, vous voulez relancer un ISF climatique, encore une nouvelle taxe ?
Non, pas une nouvelle taxe, simplement un système logique, plus vous payez, plus vous polluez, plus vous payez. Donc ça va financer l'adaptation, ça va financer les services publics, ça peut fâcher certains riches, mais il y en a certains qui sont d'accord.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC de Victor Porcher, le rappeur Jay-Z, ce matin, qui a fêté ses 30 ans de carrière.
Alors vous, pour fêter vos 30 ans, peut-être que vous vous réunissez avec des amis. Bah, Jay-Z, c'est pareil, mais pour 3 concerts consécutifs au Yankee Stadium de New York. Alors oui, à New York, il y a eu Alicia Keys, que vous entendez évidemment. Il y a eu aussi la femme du rappeur Jay-Z, Beyoncé, le chanteur Usher, que du beau monde. Mais la nuit dernière, c'est bien elle seule, qui a soulevé la foule. Elle, évidemment, vous l'avez reconnue, c'est Rihanna, et le public l'aura bien mérité cette rare apparition de la chanteuse sur scène, parce que ce dernier concert d'anniversaire, il a commencé avec plus de 3 heures de retard, perturbé par des fans sans billets à l'entrée. Alors on espère que ça se passera mieux à Paris. Concert de Jay-Z prévu au Stade de France, ce sera le 10 septembre.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et ce matin, c'est mardi, c'est jour de voix de gauche avec Cécile Duflot, ancienne ministre, patronne d'Oxfam. Cécile, face au changement climatique, il faut une justice fiscale. C'est ce que vous plaidez ce matin avec cette proposition. Vous voulez instaurer un ISF climatique.
Oui, là, on voit bien, chaque jour qui passe, on a besoin de Canadair. Le débat est monté, on a besoin de pompiers. On a besoin, je crois que tout le monde l'a compris, de financer l'adaptation au changement climatique. On a besoin de financer la transition écologique. On a besoin d'aider nos services publics. Et qu'est-ce qui s'est passé en même temps en France ? Un envol des inégalités avec un enrichissement des super, super riches. Une des raisons de ça, c'est des décisions fiscales, c'est notamment la suppression de l'ISF. Donc quand on a fait une chose qui était une erreur, on fait marche arrière. Et donc il y a une vraie proposition qui est celle d'un retour d'un impôt sur la fortune, mais climatique, dans les deux sens du terme.
Ça veut dire quoi dans les deux sens du terme ?
Dans les deux sens du terme, ça veut dire qu'il y a cette logique du pollueur-payeur. Donc faire payer plus ceux qui investissent dans des investissements nuisibles au climat, des investissements bruns. Donc on charge davantage cet ISF. Et par ailleurs, ça sert à financer les investissements dans la transition écologique, ça sert à financer l'adaptation. C'était l'idée aussi de la taxe Zuckmann, mais c'est une idée en fait qui a été promue dès 2020 et dès la conférence citoyenne sur le climat. Le mécanisme a été détaillé par Greenpeace, mais aussi par Oxfam, et mieux encore, dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Je rappelle que Jean Pisani-Ferry, c'est un des inspirateurs du programme d'Emmanuel Macron. Il disait que pour financer la transition écologique, il faudrait une contribution, lui, il parlait d'exceptionnel, des plus riches.
Est-ce qu'on sait combien ça rapporterait ?
Alors, l'estimation d'Oxfam, c'est 15,7 milliards par an. Et donc, quand on parle en milliards, on va pas bien voir ce que c'est. Bah, du coup, je vais parler en Canadair. Donc, 15,7 milliards, c'est 400 Canadair par an. On en a 12, il nous en manque 4, 2 qu'on a abandonnés. D'ailleurs, en parlant de ça, en 2024, et c'est le moment où on a arrêté la commande de 2 Canadair supplémentaires, on a fait baisser le budget de la sécurité civile de 53 millions d'euros. Donc on voit bien que l'ordre de grandeur, il est vraiment en faveur de cet ISF climatique.
Bon, c'est ce que vous savez ce qu'on va nous dire, les riches ne seront pas d'accord pour payer une nouvelle taxe.
Eh bien, ce n'est pas complètement vrai, et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, parce que je veux saluer ce matin l'initiative de multimillionnaires français qui prennent la parole, et je sais que c'est compliqué, pour défendre la justice sociale et la transition écologique en disant que eux-mêmes sont prêts à payer des impôts. C'est inédit que ce soit aussi collectif. Je crois que c'est une très grande nouvelle. C'est un papier de Thierry Fabre qui le raconte dans le fameux numéro de Challenge sur les 500 plus grandes fortunes de France. Du coup, je vais citer leurs noms. C'est Mathieu Pigasse, on le connaît bien, mais c'est aussi Maxime Kurdjian, Jean-Baptiste Rudel, Armand Thiberge, Marc Batty et Édouard Sauer. Je voudrais saluer chacun d'entre eux. C'est tous des entrepreneurs qui ont parfaitement réussi parce que je sais que c'est pas facile pour eux de s'exprimer. Et je le fais avec d'autant plus plaisir qu'on est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est l'anniversaire de la prise de la Bastille, mais aussi de la fête de la Fédération. Et la fête de la Fédération, en 1790, c'est la fête de l'unité nationale et de la réconciliation. Et je pense que cet ISF climatique, ça pourrait être un vrai signe d'unité nationale et de réconciliation.
Eh bien voilà, une proposition posée dans le débat avant la présidentielle. Cette ISF climatique, proposition d'Oxfam que vous dirigez. Cécile Duflot, la voix de gauche d'RMC. Demain, ce sera au tour de la voix de droite, Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h. Avec à la une ce compte à rebours avant la demi-finale des Bleus France-Espagne. Ce soir, nous serons à Dallas, sur place, où on jouera cette demi-finale. Et puis juste après, le journal L'Économie, avec vous, Emmanuel Le Chiffre. Bonjour, bonjour Emmanuel, on est 14 juillet. Où en est la France du financement de sa défense ?
Eh bien justement, le réarmement de la France, ça restera comme un des éléments majeurs du bilan des 10 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
La météo, il va encore faire chaud aujourd'hui. Température en hausse, même dans le sud-ouest. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.